Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, le droit de migrants congolais vivant en Afrique du Sud est au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État congolais a appelé au respect des droits fondamentaux et au renforcement de la solidarité africaine, tandis que Pretoria réaffirme son engagement à protéger toutes les personnes vivantes sur son territoire. Vous l'entendrez. Naufrage d'une baleinière sur la rivière des Kassai et Sankourou dans le territoire d'Ilebo au Kassai. Les opérations de recherche se poursuivent après ces drames qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux disparus. La surcharge d'embarcation est évoquée parmi les causes de l'accident. Notre invité, Eloïse Yola, expert en hydrocarbures et environnement, il dresse un état des lieux de la gouvernance du secteur des hydrocarbures en RDC et plaide pour une réforme de la législation ainsi que l'adoption d'une politique nationale capable de mieux valoriser les ressources du pays. Christian Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les droits des migrants congolais vivant en Afrique du Sud étaient aussi au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa hier à l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB. Le chef de l'État congolais a appelé au respect des droits fondamentaux et au renforcement de la solidarité africaine, tandis que Pretoria réaffirme son engagement à protéger toutes les personnes vivant sur son territoire. Extrait de Benjamin Moudoumbi.
Nous avons évoqué avec toute la délicatesse requise la situation de certains ressortissants africains vivant en situation irrégulière sur le territoire sud-africain, ainsi que les tensions que cette question peut parfois susciter. Nous comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Monsieur le Président, mon cher frère, votre présence aujourd'hui à Kinshasa illustre l'excellence des relations entre nos deux pays et notre volonté commune de bâtir une Afrique plus solidaire, plus résiliente et plus prospère.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à protéger toutes les personnes vivant sur le sol sud-africain. Qu'elles disposent ou non des documents, leurs droits et leurs vies doivent être respectés et défendus, a-t-il déclaré. Je l'ai dit au sommaire, opération toujours en cours pour retrouver les survivants après le naufrage d'une embarcation la nuit de mercredi dans le territoire d'Ilebo au Kassai. L'accident a coûté la vie à 20 personnes, plus de 100 autres sont portées disparues, 80 autres personnes ont été sauvées par deux pêcheurs. L'embarcation a chaviré à la jonction de rivière Kassai et Sankourou. La surcharge serait à l'origine de l'accident d'après plusieurs sources. Récit de fait André Katende Galamouloumbé.
La baleinière assurait la liaison entre les ports Kalima à Ilebo et la province du Sankourou selon des sources locales. À son bord, plus de 200 passagers, dont de nombreux élèves qui rentraient chez eux après les épreuves d'état. L'embarcation avait quitté les ports en pleine nuit vers 22 heures pour éviter les contrôles. À la jonction des rivières Sankourou et Kassai, le bateau s'est brisé avant de sombrer. L'administrateur du territoire d'Ilebo, François Kaboula, confirme les bilans provisoires.
Il y a eu 80 personnes rescapées et 20 qu'on a trouvées déjà décédées.
Il y avait combien de gens à bord de la baleinière?
Au-delà de 200.
La société civile d'Ilebo est révoltée. Elle exige un contrôle strict des embarcations et les ports obligatoires du gilet de sauvetage. François Malepo, président de la société civile locale.
Les armateurs ont besoin de l'argent. Ils n'ont pas besoin de vie des hommes. Ils chargent beaucoup de personnes, de marchandises. Ils ne prévoient jamais les gilets de sauvetage pour leurs clients.
Entre-temps, les opérations de recherche continuent. Plusieurs passagers sont toujours portés disparus. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
En Ituri, début hier jeudi 2 juillet à Bounia, des essais cliniques portant sur deux traitements expérimentaux contre la maladie à virus Ebola. Selon le responsable, la riposte dans cette province épicentre de cette 17e épidémie. Cette étude vise à évaluer l'efficacité de deux traitements potentiels contre cette maladie qui a déjà causé plus d'un centaine de morts au pays. De quoi redonner l'espoir à des milliers de malades et des cas suspects de ces virus. Martial Kizabiamungu.
Les essais cliniques de 10 antiviraux ont officiellement débuté jeudi à Bounia, avec le recrutement du premier patient dans un contexte marqué par la persistance des foyers épidémiques dans toutes les zones affectées. Selon des responsables de la riposte à l'Ituri, les patients qui participent à ces essais bénéficient des soins de soutien complets et d'un suivi étroit. Ils auront accès à ces deux médicaments s'ils s'avèrent sûrs et efficaces au cours de l'essai. Cette étude est coordonnée par l'Institut national de recherche biomédicale INRB avec le soutien d'une coalition des partenaires dont l'OMS et en étroite collaboration avec les communautés touchées. Selon les chiffres de l'OMS, on dénombre à ce jour 1406 cas confirmés, dont 438 décès confirmés à l'heure d'essai, tandis que 208 personnes se sont remises du virus. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Et restant en Ituri, le coordonnateur provincial de la société civile Force Vive tire la sonnette d'alarme sur la situation dans la zone de santé des Nizi, l'un des principaux foyers de l'épidémie d'Ebola. Au terme d'une mission d'évaluation menée notamment à Lopa, Iga Barrière et Nizi, de donner l'OSA dénonce des insuffisances dans la prise en charge des malades. Il appelle les autorités à renforcer d'urgence la riposte. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Après une mission de terrain dans les aires de santé de Lopa, Iga Barrière et Nizi, la société civile de l'Ituri dresse un constat préoccupant. Selon son coordinateur provincial, Dieudonné Lossa, les équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés ne disposent ni d'effectifs suffisants ni de moyens nécessaires pour répondre à toutes les alertes. Ils affirment que certains corps restent parfois 2 jours sans être pris en charge, alimentant les tensions avec les communautés. La société civile relève également l'absence de véritables centres de traitement d'Ebola dans la zone de santé de Nizi. Les structures existantes sont saturées, obligeant plusieurs malades à être transférés vers Bounia, où les capacités d'accueil sont également limitées. Dieudonné Lossa.
Ceux qui veulent venir se soigner, ils n'ont pas où aller se soigner. À ce moment où nous venons de Nizi, par exemple, il y avait déjà 30 lits qui étaient disposés, totalement occupés. Ils ne savaient même pas recevoir d'autres malades qui s'annonçaient.
Face à cette situation, la société civile de l'Ituri recommande le renforcement des équipes de riposte, l'augmentation du nombre d'ambulances et la construction urgente des centres de traitement à Nizi et à Lopa. Il appelle également la population à éviter toute manipulation des corps afin de limiter la propagation de la maladie. Contactée par Radio Kapi, l'équipe provinciale de riposte n'a pas encore réagi, du moins pour l'instant. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilet, Radio Okapi.
Bonne nouvelle au Nord Kivu, le poste frontalier reliant la ville congolaise de Goma à la ville rwandaise de Gisenyi ont ouvert leurs portes. L'annonce a été faite hier jeudi par les autorités compétentes. Cette décision intervient après 47 jours de fermeture. La reprise du trafic est justifiée par l'absence de nouveaux cas confirmés de Ebola à Goma. La seule patiente déclarée positive ayant été officiellement guérie il y a plus de 2 semaines. Les détails avec Bernard Nyangui.
Selon plusieurs sources officielles, la réouverture des postes frontaliers entre Goma RDC et Gisenyi Rwanda marque un assouplissement des mesures prises pour contenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Cette reprise reste conditionnée au respect strict des dispositions sanitaires en vigueur aux postes de la petite et de la grande barrière dite la corniche. Après près de 45 jours de fermeture ou de restrictions renforcées, la reprise partielle du trafic transfrontalier est accueillie favorablement par les populations des deux côtés de la frontière. Les mesures sanitaires avaient fortement ralenti les échanges commerciaux et les déplacements quotidiens entre Goma et Gisenyi et d'autres destinations de la région d'Afrique de l'Est. Aux deux postes frontaliers, les autorités sanitaires maintiennent les activités de surveillance épidémiologique, de suivi des contacts et de sensibilisation communautaire afin de prévenir toute résurgence de la maladie. Pour rappel, les postes frontaliers avaient été fermés le 17 mai, au lendemain de la confirmation des premiers cas d'Ebola à Goma. Des sources concordantes nous apprennent que le gouvernement rwandais affirme suivre de près l'évolution de la situation dans l'est de la RDC et indique qu'aucun cas d'Ebola n'a à ce jour été signalé sur son territoire.
Direction les Maniema, les 2 juillet date de la proclamation de résultats de fin d'année scolaire est considérée comme une opportunité d'affaires pour les petits commerçants de Kindu. C'est notamment pour le preneur de vue, les maisons d'imprimerie, les salons de coiffure et de beauté. Les services de ces derniers ont été beaucoup plus sollicités à la veille tout comme le jour de la proclamation. Le marché également a été inondé et pris d'assaut par les parents afin de chercher les vivres et non-vivres pour satisfaire les enfants. Florence Kizalunga a sillonné la ville.
Bien avant de se rendre à la proclamation, les élèves, y compris les membres de leur famille, ont inondé les salons. Roselyne Bianga du salon Jada Beauty les témoigne.
Une très bonne journée. On a eu beaucoup de clientes qui venaient pour plusieurs services, pour la pose périque, pour de tresses, pour d'autres coiffures, pour le maquillage aussi. Donc ça nous a permis un peu de gagner l'argent.
Même réalité au salon homme du cinquantenaire. Samuel Issa confirme.
Il y avait beaucoup de gens, les garçons, les papas, ils étaient venus tous pour être coiffé. Vraiment, c'était une belle journée pour nous.
Dans les maisons d'imprimerie, n'en parlons même pas. Radia Boboutindi est de l'imprimerie La Correction.
Nous avons été inondés et ça nous a donné la possibilité de vendre nos produits. Et cette journée nous a permis quand même de booster nos activités économiques.
Après la proclamation, chacun s'est précipité pour prendre une photo souvenir. Olivier Oleko, photographe.
Après la proclamation, beaucoup de parents sont venus pour prendre des photos. En tout cas, de notre côté, ça a amélioré notre rendement par rapport à d'autres journées.
Cette opportunité n'a pas épargné les motards qui accompagnaient les familles soit à la maison, soit dans les lieux de fête et même ceux-là qui ne faisaient que sillonner dans la ville. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Un calme précaire est Namasongi, dans la chefferie des Inkanishin. Nous sommes dans la province de Lomami. Si après des violents affrontements survenus jeudi dernier entre deux groupes d'habitants, ces tensions liées à la désignation du nouveau chef de village ont causé la mort d'une personne. Les bilans fait aussi état de plusieurs blessés encore non identifiés ainsi que l'incendie d'une centaine de maisons. Les détails avec Esther Ndalafina.
Selon l'administrateur du territoire de Lulu, le conflit a éclaté après la désignation par la notabilité locale d'un nouveau chef pour le village de Mansongi. Cette démarche visait à mettre fin à l'intérim qui durait depuis près d'un an suite au décès du chef précédent. La situation s'est envenimée lorsque les habitants ont appris que le grand chef de la chefferie des Inkanichin avait rejeté leur choix, accusant certains notables d'être liés au mouvement Kamuina Sapu, responsable par le passé de grave violence dans la région. Contacté, le grand chef de la chefferie rejette la procédure des personnes ayant désigné le nouveau chef. C'est ainsi qu'il a alors proposé un autre candidat, une désignation immédiatement contestée par une partie de la population. D'après plusieurs sources locales, les partisans du candidat proposé par la chefferie et ceux soutenant le choix de la notabilité et certains habitants se sont affrontés jeudi dernier. Le bilan provisoire fait état des morts, des blessés non encore recensés, des 198 maisons incendiées et des déplacements massifs des habitants. Le ministre provincial de l'Intérieur, quant à lui, encourage la population à rentrer chez elle pour reconstruire le village. Il rassure enfin que les éléments de la police ont été dépêchés sur place pour rétablir l'ordre. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Finissons la province du Congo central, une baleine retrouvée sur la plage de Mwanda. L'animal est d'une taille estimée entre 10 et 12 mètres de longueur pour un poids compris entre 8 et 12 tonnes a été découvert dans la soirée du mercredi échoué sur le littoral de la côte atlantique. Un événement particulièrement rare et qui a attiré l'attention de beaucoup de curieux dans cette zone habituellement marquée par la pêche artisanale et le trafic côtier. Très vite, autorités, habitants et agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature se sont mobilisés. Des tentatives ont été engagées pour essayer de remettre l'animal dans l'océan, son milieu naturel mais sans succès hélas. Élise Kavira nous donne plus de détails.
La découverte de ce mammifère marin a suscité étonnement et vive émotion auprès des riverains de Mwanda. Selon plusieurs témoins, l'animal était encore vivant au moment de sa découverte. Cependant, le chef de parc marin des mangroves, le directeur provincial de l'ICCN Congo Central, Dedieu Biayombe, pense que rien n'aurait pu être fait pour sauver l'animal.
Quand la baleine a échoué, nous sommes rendus compte que c'était juste le dernier signe que la baleine avait manifesté, mais la baleine n'était plus en vie, il était vraiment mourant.
Sur place, certains habitants curieux disaient avoir aperçu des traces de balles sur la baleine. À ce sujet, le directeur Dedieu Biayombe donne plus d'éclaircissements.
Ceux qui étaient là, ils ont observé qu'il y avait des trous, croyaient que c'était des trous de coups de balles, ce sont des parasites qui pénètrent sur la peau des baleines, qui peuvent cacher des zoonoses qui sont à la base de beaucoup de maladies.
Quant aux précautions sanitaires, le directeur de l'ICCN met en garde toute personne ayant été en contact avec l'animal et rassure que toutes les dispositions sont prises afin que l'animal ne soit pas consommé par la population.
C'est une espèce totalement protégée de la CITES. Nous ne sommes pas autorisés de partager la viande et de consommer. Tous ceux qui ont touché, ils doivent essayer de passer dans les hôpitaux pour faire des tests. On ne sait pas quelle maladie ça peut contaminer jusque-là.
Cet échouage soulève également des questions sur les moyens disponibles pour intervenir rapidement en cas de situation d'urgence sur la côte. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La France enregistre un premier bilan provisoire de la canicule exceptionnelle de juin. Selon les autorités sanitaires, au moins 2025 décès supplémentaires ont été recensés durant la semaine du 22 juin, soit une hausse d'environ 29% par rapport à la semaine précédente. Les personnes âgées sont les principales victimes. Les régions des Îles-de-France et de Pays de la Loire figurent parmi les plus touchées. Les autorités précisent toutefois que ces bilans restent incomplets et pourraient encore évoluer.
L'invité.
Au cours d'une matinée d'échange organisée ce jeudi 2 juillet à Kinshasa par le consortium Congo n'est pas à vendre, des acteurs étatiques et non étatiques ont dressé l'état des lieux de la gouvernance du secteur des hydrocarbures en RDC. Présent à ces forums, Lewis Liola, expert en hydrocarbures et environnement, estime nécessaire de moderniser la loi sur la gestion de ces secteurs. Il conseille également au gouverneur congolais de définir une politique nationale sur les hydrocarbures afin de permettre à ces domaines de contribuer davantage au renflouement des caisses de l'État. Lewis Liola s'entretient avec Bess Nonga Mayanda.
Bonjour Monsieur Lewis Yola.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Le consortium Congo n'est pas à vendre vient d'organiser une matinée d'échange sur l'exploitation des hydrocarbures en RDC. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette session?
Il s'agissait de faire un état des lieux depuis le lancement du processus des appels d'offres en 2022, sa suspension et jusqu'à ces jours, comment les choses ont évolué. À l'issue de ces échanges, les intervenants et les participants, nous avons essayé un peu de passer en revue le début du processus jusqu'à ces jours. On a constaté que depuis un certain moment, on n'était plus au courant de ce qui s'est passé réellement et c'est pourquoi il était important de discuter afin de comprendre où en sommes-nous. Parce que sur le pétrole du peuple congolais, on ne sait plus depuis qu'on a suspendu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le processus ne sera plus relancé? Et donc, tout ça a fait objet de nos échanges.
Après plus de 3 heures d'échange, quels sont les différents constats que vous avez pu dégager?
En tout cas, après les échanges, nous nous sommes convenus qu'il est important de modéliser notre loi afin qu'elle puisse répondre aux vrais besoins des communautés, de la population, mais aussi on a compris qu'il était nécessaire d'avoir une vision sur le pétrole de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pétrole? Est-ce qu'on veut exploiter juste pour exploiter? Donc tout ça, ça doit faire partie de nos ententes et nous demandons au gouvernement, à l'issue de ces échanges, qu'on puisse avoir une vision, qu'il y ait une politique nationale sur les hydrocarbures.
Vous organisez ces forums entre vous experts sans la présence des membres de l'exécutif. Pensez-vous obtenir gain de cause?
Mais déjà, nous les avons invités. Les invitations ont été envoyées au ministère des hydrocarbures. Malheureusement, certainement, ils étaient empêchés, ils n'étaient pas là, mais cela ne nous a pas empêchés de réfléchir. Au moins, il y avait la présence du secrétariat général qui était là, qui aussi représente d'une certaine mesure le ministère des hydrocarbures. On a discuté ensemble avec eux et je crois que ça ira.
En tant qu'expert, qu'est-ce que vous proposerez pour essayer un peu d'améliorer les secteurs des hydrocarbures en RDC?
Moi, je pense que tant qu'expert, ce que je proposerai, c'est de faire parler l'expertise. La politique doit un peu prendre du recul face à l'expertise, à la technicité. C'est la technicité qui doit être mise en avant. Parce que si on met plus en avant la politique dans un secteur si technique comme le secteur des hydrocarbures, certainement on va commencer à tourner en rond.
Le gouvernement a annoncé l'annulation du processus d'attribution des 27 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers. Cette décision gouvernementale a-t-elle quelle incidence, selon vous, sur les plans socio-économiques?
Les implications financières sont vraiment énormes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si ne fût-ce qu'un seul bloc est attribué et que l'exploitation devenait effective, nous allons multiplier même par 3 notre production actuelle. Et une fois on multiplie par 3 la production actuelle, cela aura une implication sur les revenus. On va multiplier les revenus perçus au niveau du trésor public, même fois 2, fois 3. Déjà, il faut qu'on souligne. Aujourd'hui, le secteur pétrolier, juste avec la petite production de 20 000, 25 000 barils produits par Perenco, il contribue un titre de plus de 5% dans le budget de l'État. Imaginez que la production soit multipliée par des via d'autres entreprises. Je pense que on pourra atteindre une contribution dans le trésor public estimée à 10-15%. Donc c'est énorme une fois le bloc attribué que la production devenait effective.
Après cette matinée, qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir?
Certainement, nous allons rédiger les résolutions et puis nous allons mener des activités de plaidoyer auprès des décideurs. le ministère des hydrocarbures vient son cabinet, la présidence, la primature, afin qu'ils puissent voir que à un certain niveau, les Congolais réfléchissent et donnent des idées et qu'à eux de prendre ça en considération.
Monsieur Lewis Yola, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cet échange avec Lewis Liola, expert en hydrocarbures et environnement. Il répondait aux questions de Blaise Nougala Mayanda. C'est ici qu'est prend fin ce journal de 18h présenté par Christian Makasinga, supervisé par Lévin Mwinga sous la coordination des gens d'Israël Kanyama avec Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de faire confiance à Radio Okapi. Retrouvez ce journal en podcast sur notre site et suivez toute l'actualité en continu sur www.radiookapi.net ainsi que sur nos différentes plateformes numériques. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ces jours.